Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de CNews, le plateau de Ça se dispute avec, en direct, toujours face à face, Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir Geoffroy.
Ravi de vous retrouver, vous m'avez manqué vendredi dernier.
C'était la messe, donc...
La messe, c'est normal, messe, et nous sommes là.
Et la totale Moscou.
Oui, mais vous étiez là pour la totale Moscou. Effectivement, actualité riche et chargée également très dense ce soir. Après la mort de l'adolescente de 15 ans agressée par des jeunes à Viry-Châtillon, après l'agression très violente de Samara, 13 ans, à Montpellier, pour laquelle d'ailleurs trois mineurs ont reconnu les faits, avec l'insécurité grandissante et les drames qui en découlent. À qui la faute et surtout la France est-elle passée désormais à l'orange mécanique, comme dans le roman de science-fiction d'Anthony Burgess en 1962, qui a inspiré le film de Stanley Kubrick en 1971. Ultra-violence dans ce film, viol, sang, une cité urbaine où les jeunes ont pris le pouvoir. On y est presque, on y est peut-être même. Écoutez en tout cas l'émotion très forte aujourd'hui du maire de Viry-Châtillon dans l'Essonne, Jean-Marie Villain.
J'ai pas plus d'informations que ça sur l'enquête et c'est les policiers qui l'amènent Je ne suis pas en lien direct avec le procureur ni avec les services de police, même si moi je considère que, quelle que soit cette raison, et cette raison va pouvoir déterminer comment on en est arrivé là, ça c'est vrai. Mais par contre, quelle qu'elle soit, qu'elle soit futile ou qu'elle soit, entre guillemets, importante aux yeux de ceux qui l'ont fait, pour moi elle est inadmissible. Il n'y a pas de raison qui donne à quelqu'un la possibilité ou le droit d'aller... taper comme un sauvage, comme un fou sur un jeune de 15 ans qui lui cherche juste à vivre, à avoir une vie, à avoir des amis, à découvrir le monde. À 15 ans, on a envie de découvrir le monde. On n'a pas envie de se faire taper pour mourir.
Voilà Jean-Marie Villain qui réagissait ce matin et qui a réagi cet après-midi. On écoutera le bon sonore dans quelques instants où effectivement il est au bord des larmes, il est même en larmes et il ne comprend pas qu'on puisse prendre la vie pour rien d'un jeune homme de 15 ans. Geoffroy Lejeune, le pays a-t-il basculé, sans qu'on s'en rende compte, d'une certaine manière, dans une sorte de chaos violent, qui rappelle d'ailleurs Orange Mécanique, pour ceux qui l'ont vu?
Moi, je l'ai vu, Orange Mécanique, quand j'étais adolescent. J'ai trouvé le film, tout le monde d'ailleurs trouve le film excellent, évidemment. Mais en fait, quand vous y réfléchissez, ce qu'on vit aujourd'hui est bien pire. C'est-à-dire que Orange Mécanique, c'est une exagération, c'est presque une fable en réalité ce film.
C'était de la science-fiction à l'époque.
En fait, c'est ça.
Mais ça ne l'est plus aujourd'hui.
Et ça, bien sûr. En fait, ça décrivait une société qui n'existait pas, ou alors complètement à la marge, et ça a tiré le fil de la violence gratuite pour faire peur et pour provoquer. D'ailleurs, ça a marché et c'est très réussi. Mais en fait, aujourd'hui, on vit vraiment là-dedans pour de vrai. C'est-à-dire que on a commenté Crépole il y a quelques mois. Souvenez-vous de le petit Yuri sur la dalle de Beaugrenelle. C'est à peu près la même histoire, j'ai l'impression, même si on ne sait pas grand-chose dans le cas de cette affaire-là. On a des rumeurs. Et bien sûr, ensuite, on a Samara. Ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est aussi une gamine qui se fait tabasser. Enfin. C'est devenu notre quotidien en réalité, et parfois les faits divers qui en fait n'en sont plus beaucoup. Enfin, c'est maintenant un fait de société globalement. Ils prennent pas tous de la même manière, mais ça arrive quasiment tous les jours, et c'est vraiment le quotidien de cette France. Donc moi, je sors de l'émission il y a maintenant 2 heures. J'étais avec Philippe de Villiers sur ce plateau. Je vais reprendre son mot et je le cite pour pas lui voler, mais lui il pense que c'est un problème de civilisation, et en fait il m'a convaincu. Je l'ai écouté. Macron parle de décivilisation, Philippe de Villiers parle de la fin d'une civilisation. La vérité, c'est qu'en fait, c'est vrai que quelque chose est cassé, quelque chose n'existe plus dans les rapports humains. En fait, ce genre de choses a toujours existé dans les sociétés, de manière complètement marginale, et d'ailleurs, c'était durement réprimandé, durement puni, etc. Absolument. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Je vous cède la parole, Philippe Guibert, dans un instant. Je voudrais vous faire écouter le sonore très fort, c'était cet après-midi, de Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, qui pleure, en effet, suite donc à la disparition de ce jeune homme de 15 ans qui a été tué et battu à mort.
C'est dur de parler d'un gamin. Enfin, il avait juste tout pour avoir une vie agréable, une belle vie, pour avoir une amoureuse, pour avoir... pouvoir vivre, pouvoir faire du sport. Et puis là, finalement, il y a quelqu'un qui se décide de faire autrement. Il y a des fous furieux qui disent que, ben, pour X raisons, j'ai le droit d'enlever la vie. Il y a des gens qui se sont battus justement pour, contre ça. Et puis une fois de plus, là, c'est un drame absolu.
Évidemment, c'est assez violent. Même la réaction du maire est extrêmement choquante parce qu'elle est forte. Il pleure. En effet, pourquoi cette ultra-violence ? Et cette réaction, elle est très symbolique aussi d'un aspect de désarmement en fait face à une situation, Philippe Guibert.
Ouais, c'est la bonne question parce que des bagarres, ça a toujours plus ou moins existé. Mais comme le disait Geoffroy, cette violence qui va jusqu'à tuer, parce qu'ils l'ont laissé pour mort. Alors, ce sera l'enquête d'établir s'il y avait intention de la donner, mais quand on frappe quelqu'un, une personne, quelle qu'elle soit, de la façon dont ils ont frappé ce pauvre jeune homme, on a l'intention de tuer. On le laisse pour mort. Et donc la vraie question, c'est pourquoi cette violence jusqu'à ce point ? Encore une fois, des bagarres de sortie du collège, ça a pu exister. Mais là, ce n'était pas une bagarre. Là, c'était la volonté de régler son compte à un jeune homme pour des motifs que l'enquête, je l'espère, éclaircira. Mais en tout état de cause, c'est le degré de violence qui va jusqu'à la mort qui interroge profondément. Parce que je prolonge ce que dit Geoffroy. Dans toutes les sociétés, le « tu ne tueras point » existe d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est cette violence totalement incontrôlée qui est extrêmement frappante et qui est d'autant plus frappante qu'elle est l'œuvre de jeunes garçons, semble-t-il, qui ont quoi ? Qui ont moins de 18 ans.
Il y a un jeune homme de 17 ans qui a reconnu les faits, voilà. Dans la mort de ce jeune homme. Et ceux qui ont agressé Samara, les trois jeunes gens, les adolescents, ont 15 ans.
Oui, c'est ça. Donc c'est de la violence de mineurs et c'est de l'ultra-violence. Voilà les deux faits sur lequel on est informé aujourd'hui. Le reste sur le motif, on le verra. Mais quel que soit le motif, ce sont les deux faits qui nous explosent à la figure. Parce qu'effectivement, c'est hélas pas un fait isolé. Et cette ultra-violence et cette violence de, ultra-violence de mineurs, elle est un fait de société. Évidemment que tous les jeunes adolescents ne sont pas violents de cette manière, mais ce ne sont plus des faits isolés, ce sont des faits qui se répètent cette semaine de façon tragique, mais à peu près toutes les semaines, quand on consulte la presse locale, on trouve des cas de harcèlement qui tournent au drame ou quasiment au drame. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en ce sens, moi, je suis assez d'accord sur le terme de civilisation et de décivilisation. Parce que le principe de la civilisation, quelle que soit cette civilisation, c'est de contenir la violence, c'est de maîtriser les pulsions. Or là, on est entré dans une société où une part de la jeunesse, voire de l'extrême jeunesse, ne contrôle plus ses pulsions. Et donc là, il y a un problème qui va bien au-delà d'un problème d'éducation, comme je l'entends. Moi, je ne pense pas que ça soit l'école le problème. Le problème, c'est comment se fait-il que des gamins de 13, 14, 15 ans, 16 ou 17 ans, en arrivent à un tel degré de violence mortelle ? Et c'est ça la question qui nous est posée. Et donc, à l'évidence, j'entre un peu dans le débat, à l'évidence, il y a la question de la justice des mineurs et du droit pénal appliqué aux mineurs, puisqu'à partir du moment où on a des mineurs qui sont aussi violents, la conception qu'on avait de la justice des mineurs en 1945, forcément, doit être repensé. Ça, je pense qu'on peut être assez largement d'accord là-dessus. D'accord. Et donc, il y a un besoin de sanction et de fermeté. Enfin, là, c'est au-delà de la sanction. Enfin, c'est de la... Et au-delà de la punition. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais c'est absolument indispensable, cette réponse de fermeté et de sanction et de punition. Mais ça ne peut pas suffire. Parce que si on est face à un phénomène en France et dans d'autres pays européens, je le crains, de décivilisation, alors c'est une réponse globale qu'il faut.
Faut-il punir pour l'exemple Geoffroy Lejeune, de manière à ce que demain ça ne se reproduise pas ? Le problème c'est que ça ne va pas se faire en quelques minutes ou en quelques jours. Est-ce que ça peut faire jurisprudence s'il y a un jugement qui serait extrêmement sévère, juste mais sévère ? Et surtout, qu'est-ce qu'on a loupé pour en arriver là, dans ce problème de civilisation qu'on vous citiez, Philippe de Villiers, tout à l'heure ? Est-ce que c'est la faute des politiques ? Est-ce que c'est la faute des parents, de l'éducation ? Est-ce que c'est la faute de l'école ? On va y revenir dans quelques instants. Des valeurs de l'éducation pour en arriver à cette barbarie. C'est pas autre chose.
Je pense que vous avez posé toutes les bonnes questions. Malheureusement, en fait, la sanction, elle est indispensable et elle est malheureusement pas suffisante. Moi, je suis d'accord avec Philippe. C'est pas, on se dispute pas beaucoup pour l'instant, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Mais
on va y... c'est pas le but ultime non plus, mais... parce que sur un sujet comme celui-là, forcément,
parce qu'en fait, on a la même préoccupation.
Vous êtes d'accord.
On a quand même, globalement, on a des positions, sur le fond assez éloignées, mais on est d'accord sur une chose, c'est qu'en fait, il faut trouver un moyen de faire société. C'est ça qui ne marche plus aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce que c'est la civilisation ou le fait de faire une société? Ce sont des gens différents, pas forcément d'ailleurs d'accord entre eux, etc., mais qui, pour un tas de raisons, en fait, sont liés par des chaînons invisibles, mais omniprésents. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on faisait société, ce pays faisait société, quand il y avait des choses qui étaient évidentes et qui donc n'avaient pas besoin d'être codifiées, parce que c'était naturel. C'est le « tu ne tueras point » nous précède très largement. Mais il y a plein d'autres choses, en fait. Laisser passer les gens quand vous êtes en voiture et qu'il y a un passage piéton... Le respect dû à l'autorité, quelle qu'elle soit, que ce soit le maître, le patron, le père, ou la mère d'ailleurs.
La peur de l'uniforme.
La peur de l'uniforme.
A-t-on peur des gendarmes et de la police aujourd'hui ?
Et donc je réponds à la deuxième partie de votre question. Oui. Qu'est-ce qu'on a raté et qui a failli ? Objectivement, tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça a été attaqué par des gens qui avaient un projet idéologique, donc sur la question de l'autorité notamment, etc. Ça a été attaqué, combattu. Et ça a marché, en fait. Ça a marché, c'est que tous ces chaînons se sont défaits, les uns après les autres. Certains n'ont pas eu le courage de s'y opposer. D'autres s'en sont très bien accommodés ou ont trouvé ça formidable, génial. Certains, enfin, et là, c'est les politiques, les médias. Moi, je pense que les médias ont une responsabilité énorme dans ce qui est dans la faillite intellectuelle, morale de ce pays.
C'est-à-dire ?
À les médias, je pense qu'on va...
Il faudrait que les médias donnent des leçons de morale ?
Non, pas que les médias donnent des leçons de morale, et je pense que les médias, on a un boulot qui suffit, mais je pense que dans l'entreprise de déconstruction, les médias ont été un acteur clé, beaucoup plus persistant et cohérent sur la durée que les politiques, par exemple, parce que les politiques, il y a eu des alternances, etc. Les médias en mai 68, ils ont choisi un camp et ils ne l'ont pas abandonné. Et encore aujourd'hui, vous avez tous les jours des preuves, vous avez des déconstructeurs qui sont aux manettes en réalité et qui appliquent encore la même logique de déconstruction. Au début, c'était juste, il fallait déboulonner la figure du père, éventuellement celle de Dieu si c'était pas déjà fait. Aujourd'hui, il faut déboulonner ce qui reste encore, les derniers résidus, il faut aller les attaquer. Et on s'attaque à CNews et on s'attaque au Puy du Fou, à ces cibles en fait qui sont un peu différentes. Donc moi, les médias, je les mets presque en numéro un des responsables.
Donc une certaine catégorie de médias.
Ah bah, en fait, disons qu'aujourd'hui, il y a des médias différents qui se mettent à exister. Mais pendant très longtemps, excusez-moi, il n'y avait pas de pluralisme dans les médias.
Très bien. Je vous cède la parole, Philippe Guibert, avec cette question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Est-ce que cette ultra-violence, c'est aussi la faillite de l'école ? Parce que beaucoup de choses se passent dans l'école ou en périphérie de l'école, en tout cas dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement. Et on en sait un petit peu plus sur les circonstances entourant la violente agression de Samara à Montpellier. Les mineurs qui ont été placés en garde à vue ont reconnu avoir porté des coups et le parquet a requis le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux, Stéphanie Rouquier et Maxime Leguet.
Après l'horreur et l'émoi engendrés par la violence de l'agression de Samara dans ce collège Arthur Rimbaud, l'enquête et le parquet de Montpellier apportent des premiers éléments de réponse.
Les trois mineurs reconnaissent leur implication dans le cadre de l'agression perpétrée le 2 avril 2024. Chacun d'entre eux admet avoir porté des coups à la victime.
Les trois adolescents en question, deux garçons de 14 et 15 ans et une jeune fille de 14 ans, sont tous trois scolarisés dans le même collège que Samara. Pour la mère de la victime, l'élément déclencheur de ce drame aurait été une prise à partie sur les réseaux sociaux.
Cette jeune fille, elle a créé un compte, elle a mis une photo du jeune homme qui a porté un coup à ma fille, avait des oreilles de lapin. C'est la période de Pâques et il a mis des oreilles de lapin. Il n'a pas accepté de voir sa tête avec des oreilles de lapin sur les réseaux. Et cette jeune fille, elle a dit, c'est Samara qui a fait ça. Va la frapper, c'est sa faute. Donc ce jeune homme, il s'est présenté. Et de là, en fait, elle, en parallèle, elle avait fait lancé un appel pour frapper Samara. Ma fille, elle est une couleur sur les cheveux. Tous les jours, elle lui crachait dans les cheveux. Ma fille, elle devait aller se laver les cheveux tous les jours. Parce que cette jeune fille, elle lui crachait dessus. Voilà, et cette jeune fille, c'est elle qui l'a traitée de mécréante.
Le parquet de Montpellier a requis le placement en détention provisoire du mineur de 15 ans, suspecté d'avoir porté les coups les plus violents.
Et dans cette affaire, l'agression n'a pas été apparemment motivée pour des raisons religieuses, comme ça a pu être dit à un moment donné, mais plus pour des rivalités sur les réseaux sociaux. Mais cela s'est passé, Philippe Guibert, dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Est-ce que l'on peut dire ?
À l'extérieur.
Oui, à la sortie, juste à la sortie. Mais en tout cas, tout s'est noué à l'intérieur de cette enceinte-là. Est-ce que l'on peut parler de l'échec de l'éducation ?
En l'occurrence, je ne crois pas. Notre éducation nationale est suffisamment en difficulté comme ça, sur les questions de niveau des élèves, sur les questions de, parfois de discipline, sur des questions de transmission et de capacité de transmission, de savoir. L'école, c'est fait pour instruire. Les questions de violence entre jeunes ne sont pas la première responsabilité de l'école. Je ne dis pas que l'école n'a aucune responsabilité. En l'occurrence, dans la triste affaire de Samara, il reste à comprendre, mais il y a une enquête administrative qui a été diligentée par la ministre pour savoir exactement ce qui s'est passé, puisque l'administration du collège était prévenue qu'il y avait des jeunes qui attendaient Samara à la sortie du collège et que l'information, visiblement, n'a pas été transmise aux personnes qui ont laissé sortir cette pauvre gamine qui est sortie du coma il y a moins de 24 heures. Donc là, il y a eu un dysfonctionnement. Mais la violence, et ce dont on parle, l'ultra-violence, qui fait que cette gamine s'est retrouvée dans le coma et est passée tout près, et que ce jeune homme est décédé suite au coup qu'il a reçu aujourd'hui, ce n'est pas l'école en tant que telle qui est responsable. Alors, il peut y avoir une responsabilité parentale qui peut exister, mais ce n'est pas à l'école qui va gérer la violence.
Ce n'est pas au proviseur ou au professeur de faire la police ? Mais c'est-à-dire quand il y a un signalement comme celui-là, quand il y a une menace, c'est pas au proviseur d'aller en découdre avec les jeunes à la sortie du lycée.
Ce qui aurait dû se passer dans le collège de Samara, c'est qu'elle n'aurait pas dû sortir, puisque l'information avait été transmise par
les... Ils auraient dû la protéger, alors.
Ils auraient dû la protéger, donc là, il y a possiblement une faute, au moins, au minimum, dans la transmission, de l'information qui a pu avoir des conséquences tragiques. Donc là, il y a un dysfonctionnement grave. Mais globalement, cette ultra-violence des jeunes dont on parle, ce n'est pas la responsabilité de l'école. Elle peut la subir, on peut vouloir faire, comme l'a répété le président de la République, de l'école un sanctuaire, mais en l'occurrence, le sujet, là, c'est pas que l'école soit un sanctuaire, il faut qu'elle le soit, nous sommes tous d'accord, mais c'est la violence à quelques centaines de mètres de l'école où il y a des gamins qui sont quasiment tués. L'un qui a été tué, l'autre qui a été dans un coma grave et qui a,
qui a été laissé pour morte.
Et laissé pour mort. Mmh. Donc, l'école a suffisamment de responsabilités, suffisamment de problèmes comme ça à résoudre, à commencer par celui de la transmission des savoirs, pour qu'on ne la charge pas en plus de résoudre tous les problèmes de violence de la société. Et si on est d'accord avec Geoffroy pour dire qu'il y a un problème de civilisation ou de décivilisation, en l'occurrence, c'est pas l'école tout de suite, toute seule, qui va pouvoir résoudre ce problème. Encore une fois, ne chargeons pas trop l'école qui a déjà beaucoup à faire. Il y a une responsabilité des parents, il y a une responsabilité éducative des parents. L'éducation ne se fait pas qu'à l'école. Et c'est surtout l'instruction et la transmission de savoir qui se fait à l'école, même si l'école doit aussi imposer une morale, un comportement de respect des autres.
Geoffroy Lejeune, l'école peut inculquer des valeurs, comme ça a été peut-être le cas il y a quelques années, dans un temps révolu aujourd'hui. Et l'école est-elle encore un sanctuaire aujourd'hui ? Puisque Emmanuel Macron parlait de sanctuaire. Quand il y a des menaces de mort contre des proviseurs, quand des professeurs sont assassinés, dont un dans l'enceinte d'un établissement, est-ce que c'est encore un sanctuaire ?
C'est drôle parce que quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler de sanctuaire, je me suis dit, comme à chaque fois, on se met à prononcer le mot quand la chose n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vœu pieux, je suis d'accord avec ça, j'adorerais que ce soit un sanctuaire. Mais l'apparition du mot, à l'époque des hussards noirs de la République, on disait pas l'école est un sanctuaire, parce que c'était un sanctuaire. Et quand c'est plus le cas, eh ben, les politiques se mettent à prononcer les mots. Je prononce cette phrase pour la dernière fois de l'émission, c'est promis, mais je suis d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que je pense que, en fait, l'école, elle est victime des mêmes mots que la société. Voilà, c'est simple, on peut les lister. Voilà. C'est-à-dire que l'insécurité, il y en a partout, donc il y en a à l'école. L'islamisation, il y en a partout, donc il y en a à l'école. Le terrorisme, il y en a partout, donc il arrive qu'il y en ait à l'école. Oui, c'est plus choquant, c'est plus grave, et c'est plus... mais en fait, c'est la même chose. L'abrutissement généralisé, pardonnez-moi, mais il est dans toute la société, donc il est à l'école. Et donc, en fait, c'est un problème global. Et l'école ne peut pas, en effet, toute seule, venir endiguer. Alors, et dans le redressement et dans la recivilisation, elle va être essentielle. Mais comment vous dire ?
Niveau a baissé considérablement, le niveau de l'école et donc le niveau de la société.
On a décidé que le niveau baisse, en fait. Pardon, c'est plutôt ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'entre les poilus qui étaient des ouvriers et qui écrivaient des lettres dans un français parfait, que quand je lis aujourd'hui, je me dis mais comment on a fait ? C'était vraiment des prolétaires, c'était l'échelle sociale la plus inférieure.
Avec une orthographe parfaite.
Avec un orthographe parfait et avec des tournures de phrases poétiques, tous aujourd'hui, même dans des sphères éduquées, etc., les gens n'écrivent plus avec de l'orthographe correcte. Donc c'est l'ampleur de la tâche est immense. Après tout, on va bien être obligé d'y passer. Donc voilà. Mais moi, je veux pas donner l'impression de cibler uniquement les médias comme seuls responsables. Mais partout où il y a un problème, ils sont là quand même. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un. Moi, je suis pas un macroniste de la première heure et je suis pas un soutien de Gabriel Attal acharné. Mais Attal, c'est intéressant. C'est un type intelligent qui sent les problèmes et qui sent comment les résoudre. Quand il arrive à l'éducation nationale, il identifie des chantiers. C'était pas non plus un truc de polytechnicien. Il a vu le problème de la baïa, il s'est dit faut le résoudre. Il voyait bien que ça durait depuis quelques mois, etc. Problème du niveau et problème du harcèlement. Il identifie les trois problèmes. Il fait sa rentrée là-dessus. Il s'est fait traiter de mec d'extrême droite par des journaux, en fait. Il a été attaqué parce que interdire la baïa,
ça a empêché de le faire.
Je suis d'accord.
Mais ce que je veux dire, ça l'a pas empêché d'être approuvé sur ces sujets-là.
Par les Français, bien sûr.
On va prolonger le débat. On va prolonger le débat sur cette thématique parce que c'est très intéressant et vous avez encore des choses à dire, bien sûr. Mais nous marquons une pause rapide et ça se dispute. Reviens avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert dans quelques instants. À tout de suite. Toujours en direct sur CNews, la deuxième partie de Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. Et le point info immédiatement, Simon Guilin, bonsoir.
Bonsoir cher Lionel et bonsoir à tous. 5 personnes désormais placées en garde à vue après la mort d'un adolescent à Viry-Châtillon. La victime a donc succombé à ses blessures cet après-midi. Hier, elle avait été rouée de coups par plusieurs personnes à la sortie du collège. Une enquête a été ouverte. Des chefs d'assassinat et de violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Le gouvernement dénonce un crime barbare. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande de cesser les ventes d'armes à Israël. C'est sa première prise de position depuis le début de cette guerre le 7 octobre. 28 des 47 États membres de ce Conseil ont donc voté en faveur du texte présenté par le Pakistan. Et puis préparez-vous, puisque demain sera une journée estivale en France. Jusqu'à 30 degrés sont attendus dans certaines régions du pays. C'est 10 degrés de plus que les normales de saison et on devrait même frôler un record pour un mois d'avril par endroit, cher Lionel.
Merci beaucoup Simon Guilin. L'information revient à 22h en direct. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert et nous parlons aussi de cette ultra-violence au sein de l'école notamment ou dans le périmètre du monde éducatif avec ces nombreux événements qui ont frappé les établissements scolaires ces derniers mois et les deux faits divers dont on vient de parler qui sont peut-être vraisemblablement des faits de société. Le ministère de l'Éducation nationale prend la chose très au sérieux et va donc déployer un bouclier autour des élèves, des enseignants. On va en parler mais d'abord les explications de Sarah Barny et de Marine Sabourin.
Sanctuariser l'école et l'établissement scolaire, c'est l'objectif que se donne le ministère de l'Éducation nationale.
Face à toutes les formes de violence qui traversent notre société, l'école doit rester un sanctuaire républicain, au sein duquel la sécurité de chacun doit être assurée en permanence.
Plusieurs dispositifs sont déjà en place, mais pour la rentrée 2024, le ministère souhaite aller encore plus loin avec la création d'une équipe mobile de sécurité au niveau national. Une réserve de 20 agents qui pourront être déployés sur tout le territoire en moins de 48 heures lors de crises aiguës. La création également dans chaque académie d'un service de défense et de sécurité académique, mais aussi l'expérimentation d'un réseau d'appui éducatif dont le but est d'apaiser le climat scolaire dans et autour des enceintes. Des dispositifs peu convaincants selon le corps enseignant.
Ça n'y répond pas d'abord pour des raisons mathématiques, c'est-à-dire que le compte n'y est pas, voilà, les moyens sont très restreints. Moi, ce qui m'occupe depuis des années maintenant, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y ait parfois parmi la jeunesse ou parmi des éléments extérieurs qui pourraient menacer l'école, tout d'un coup des accès de sociopathie terribles.
Une violence qui augmente globalement dans les établissements scolaires du secondaire et notamment dans les collèges, où près de 3 incidents sur 4 sont enregistrés.
Philippe Guibert, ce bouclier. Qu'en pensez-vous? Faut-il bunkériser les établissements scolaires pour que les élèves soient en sécurité?
Mais excusez-moi, je crois que le gouvernement part sur une fausse piste. En l'occurrence, par rapport aux faits dont on parle. Parce qu'une fois que vous aurez mis un policier ou un gendarme devant chaque établissement scolaire, 500 mètres plus loin, 1 km plus loin, on pourra assister à ce qui s'est tragiquement passé à Montpellier et à Viry-Châtillon. Et donc le problème, c'est la violence, c'est l'ultra-violence des jeunes. Qu'on protège les écoles, personne ne va être contre. Mais le problème, c'est cette ultra-violence et à laquelle il faut trouver des réponses. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a sûrement des réponses pénales, mais il ne peut pas y avoir que des réponses pénales face à un problème de cette ampleur qui touche un peu, enfin pas un peu, qui touche au fond de la société, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, il va bien falloir trouver d'autres réponses à ça.
Geoffroy parlait de la responsabilité des médias et de l'entreprise de déconstruction des autorités. Je ne suis pas sûr, pas convaincu que ça soit l'explication principale, dans la mesure où, en mai 68, on n'a jamais fait l'éloge de la violence.
Non, mais c'est la conséquence.
D'aller jusqu'à ce degré de violence n'est plus un problème d'autorité, c'est un problème de pulsion. C'est un problème de maintien des pulsions. Alors l'autorité contribue, évidemment, à contenir les pulsions. Mais mai 68 et toute la période qui a suivi, c'est quoi? Parce que ça ne s'est pas passé qu'en France, on parle toujours de mai 68, ça s'est passé dans tout l'Occident. C'est le primat de l'individu sur le collectif, mai 68. C'est l'individu compte plus que le collectif, que l'institution, que le cadre. Et ça, on assistait ça dans tout l'Occident, dans toute l'Europe, et aux États-Unis, c'est d'ailleurs partie des États-Unis dans les années 60. Et donc je ne suis pas sûr que ça puisse expliquer à lui seul ce phénomène historique, cette violence qu'on retrouve qui n'est quand même pas... qui concerne certains quartiers plus que d'autres quand même. La violence s'étend dans nos sociétés. Tout le monde le dit, les jeux vidéo sont de plus en plus violents. L'exposition, l'accès à la violence par l'image... est de plus en plus fort. Ça, c'est un phénomène qu'il faudrait peut-être analyser dans ses conséquences. Mais ce degré de violence n'existe pas systématiquement partout. Ce n'est pas toute la jeunesse qui est concernée par ce degré de violence. Et donc, il faut comprendre pourquoi, dans certains quartiers, souvent les plus désintégrés socialement, pourquoi on arrive à cette ultra-violence. Et pourquoi cette désintégration est allée aussi loin? Moi, je pense qu'il y a un problème majeur avec une partie des parents, sur lesquels il y a une responsabilité personnelle en tant que parent, mais sur lesquels aussi il y a des parents qui n'y arrivent plus. Et donc, je pense que dans notre entreprise de recivilisation ou de maîtrise des pulsions, il y a sûrement la question d'autorité. Mais il y a une question qui va être d'aider les parents qui n'y arrivent plus, qui ont de la bonne volonté, mais qui n'y arrivent plus, souvent pour des conditions sociales, à retrouver le contrôle.
Donc il faut aider les parents.
Je pense que c'est une grande question.
Donc il faut aider les parents.
Ouais, il faut une école
pour endiguer ce fléau, ce problème d'ultra-violence dans les établissements. Il faut aider les parents.
Il faut repérer très vite les familles, pas simplement monoparentales, même si elles en peuvent en faire partie, les familles où ça dysfonctionne gravement et où les gamins ont des comportements anormaux. Parce que pour qu'à 14 ans ou 15 ans, vous en soyez à ce degré de violence, excusez-moi, ça n'a pas commencé il y a 6 mois. Ça a commencé plus vite, plus jeune, plus tôt. Et donc, je crois que le travail de recivilisation, il peut passer par là.
On peut identifier les causes, mais pour endiguer ce phénomène, est-ce que cela peut suffire, Geoffroy Lejeune, d'aider les parents, de les accompagner pour éduquer leurs enfants?
Non, je
suis d'accord avec moi, vous.
Non, justement, je ne le suis plus. Il y a énormément de choses hyper intéressantes dans ce que Philippe vient de dire. Et je pense d'ailleurs que tu as listé toutes les balises du problème. Maintenant, je ne suis pas du tout d'accord sur plein de trucs. Alors oui, sur le primat de l'individu sur le collectif pour mai 68. Mais la conséquence du primat de l'individu sur le collectif, c'est que la pulsion est devenue la norme, la règle. Et personne ne doit l'entraver. Donc, on a en tête révolution sexuelle, pulsion sexuelle, mais en fait, c'est vrai dans tous les domaines. Donc, c'est vrai, c'est pour la pulsion aussi de violence, etc. En fait, quand tu retires l'autorité, quand tu retires la chose supérieure pour laisser libre cours à la pulsion, tu t'exposes à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Évidemment, c'est un cycle très long, etc., etc. Ensuite, sur le fait d'aider les parents, pourquoi pas? Mais, alors, il y a un mot que t'as pas prononcé, c'est parce que t'as parlé de quartier spécifique, de désintégrer socialement, etc. C'est celui de l'immigration. Mais c'est important parce que comme on parle de civilisation, en fait,
j'osais pas être le premier à en parler, mais c'est bien de ça.
Mais c'est mon rôle, je suis là pour ça. Mais en fait, c'est intéressant parce que on parle d'une, là en l'occurrence, on parle de gamins de 3 ou 4e génération. 4e génération, c'est plus un problème de c'est pas, ils sont pas déracinés, hein, arrivés dans notre pays, en sachant pas d'où ils viennent. Ils sont nés français, ils seront toujours français, il y a pas de sujet là-dessus. Donc ça veut dire que c'était bien un problème de civilisation et qu'en fait, ils n'ont pas intégré les codes de la civilisation qui nous paraissent évidents à nous qui sommes des natifs.
Ni ceux dont viennent leurs parents, hein, parce que c'est pas les codes plus de la violence
dans
la société de départ. Hein.
Mais parce qu'en fait, en gros, ils ont pas de civilisation, c'est ça l'histoire.
Exactement.
Donc, aujourd'hui, moi, je me suis fait décrire un peu, notamment c'est après les émeutes, parce que c'était beaucoup des enfants issus de l'immigration. C'est intéressant et en même temps tragique. C'est En général, disons, souvent, bien trop souvent, c'est une maman toute seule parce que le mari est parti faire autre chose, qui doit gérer le fait que, en arrivant à l'âge adolescent, son gamin estime que l'autorité, ça devient lui, en fait. Ouais. Et ça se passe dans beaucoup de familles d'origine étrangère. Et donc ça...
pas seulement, mais tu vas dire.
Et j'essaye de... Pas seulement, évidemment, mais en l'occurrence, pour le coup, dans la civilisation islamique, le gamin, même s'il a 14 ans, il a plus de légitimité que la maman pour être le patron de... le chef de famille. Bon, ça, c'est un sujet. Et ensuite, pour terminer sur les solutions, je vais parler de ce que je connais, moi, personnellement, mais j'en parle parce que je pense que ça répond à beaucoup de questions. Il se trouve que j'ai beaucoup fréquenté la Légion étrangère quand j'étais petit, quand j'étais gamin, parce que mon père, il travaillait. Et donc, c'est un milieu très familial où, en fait, vous êtes intégré dans la vie du régiment. Ouais. Et vous voyez comment ça évolue. Je le dis parce que ça peut paraître anecdotique. En fait, pas du tout. C'est un milieu où il n'y a quasiment que des étrangers, ouais, et où il n'y a quasiment que des anciens délinquants. Et pourtant, c'est parce que c'est la Légion, c'est la deuxième chance. Tu arrives, tu changes de nom, tu repars de zéro, on efface l'ardoise de ta vie d'avant et tu as une occasion de te racheter. Eh bien, donc je redis les critères, immigration et délinquance. Et pourtant, c'est un des endroits qui marche le mieux dans ce pays. Et, et pour le coup, je pense que ça n'est dû que à la discipline, à l'autorité qui, pour le coup, sont extrêmement fortes. Forte. La sanction immédiate au premier écart, etc.
Donc rétablir un vrai service militaire, ce serait une solution.
Moi, je pense que ce serait un miracle pour la France et une catastrophe pour l'armée. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en règle générale, même ne serait-ce que s'inspirer de ça, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas inventé grand-chose. Ils ont juste gardé le modèle d'avant. Donc, vous avez une sanction immédiate dès qu'il y a un dérapage. Et vous apprenez à tous ces gens... Quand ils arrivent, ils parlent pas français. En tout cas, souvent, ils parlent pas français. Vous leur apprenez une langue. Vous leur apprenez le code d'honneur du légionnaire. Vous leur faites réciter au bout de 40 jours. Les mecs sont là depuis 40 jours en France. Ils récitent leurs 10 commandements à eux. Et en fait, à la fin, vous en faites des Français parce qu'ils finissent par être naturalisés en plus.
Mais parce qu'ils sont, Philippe Guibert, dans un cadre prédéfini, avec de la discipline et avec l'éventualité, s'ils ne correspondent pas à ces critères-là, d'une sanction, oui, mais d'une punition. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus simple pour ces délinquants, ces fauteurs de troubles, de les menacer vraiment d'une sanction, d'une punition sévère? Est-ce que ça ne changerait pas les choses? On ne serait pas obligé d'aider les parents.
J'y viens. Plus la sanction sera précoce et rapide, plus elle sera, à mon avis, efficace.
Et sévère.
Sur mon idée.
Et sévère, Philippe.
On est bien d'accord.
Eh oui.
Une sanction, il faut qu'elle soit sévère. Si elle n'est pas sévère, c'est pas une sanction. Donc, mais je reviens sur ces cas de gamins. Je suis convaincu. On verra l'enquête. Il y aura certainement des enquêtes et judiciaires et peut-être journalistiques. Mais je suis sûr que dans l'histoire de ces gamins, l'hyperviolence degré. Encore une fois, on parle pas de bagarre là. Hein. On parle de quasi volonté de tuer. Il y a des éléments dans le passé de ces gamins où il aurait sans doute fallu se dire, à un moment donné, là, il faut non seulement sanctionner sévèrement, comme vous le disiez, et puis il faut le prendre en charge. Voilà. Et donc, je pense que dans cette entreprise où on a des gamins qui sont complètement déracinés et qui ne sont pas encadrés, je pense qu'effectivement, sans parler de la Légion étrangère, il faut avoir des sanctions précoces qui ne sont pas forcément pénales, parce que sur des gamins de 8-10 ans, on ne va pas aller jusqu'à la sanction pénale. Mais plus la sanction sera rapide, précoce, et plus on la prendra tôt dans la vie du gamin qui a des problèmes personnels ou autres, je ne sais pas de quelle nature, plus on aura des chances, à mon avis, d'éviter des passages plus que gravissimes à l'acte comme ceux dont on est en train de parler. J'ajoute, parce que c'est moi-même qui ai mis la question des quartiers, je pense qu'au-delà de la question des quartiers, on est dans une époque, dans un monde qui a facilité grandement l'accès aux images violentes. Pour tous les gamins. Enfin, je veux dire, pardon de jouer les plus anciens, mais pour moi c'est invraisemblable qu'un gamin de 14 ans est accès à des images hyper violentes ou, dans le domaine de la sexualité, à des images pornographiques qui elles-mêmes peuvent être très violentes. Je veux dire, ça induit un rapport aux autres au moment où l'individu ou la personne est en train de se construire qui me paraît profondément malsain et perverse.
Oui.
Voilà. Et donc, ça ne touche l'ensemble de notre civilisation occidentale. Internet a évidemment été plus qu'un accélérateur de ce phénomène-là. Et donc, c'est pas un hasard. Il y avait un écrivain italien qui faisait remarquer que la diffusion à grande échelle de la pornographie violente, enfin, c'est presque une redondance de dire pornographie violente, et des images de terrorisme affreuses a été quasiment concomitante. Et c'est par Internet que c'est arrivé. Donc,
l'accès à des images violentes a complètement changé de nature par rapport à une génération comme la mienne.
Évidemment, Internet et les réseaux sociaux ont fait muter la société complètement. Mais enfin, s'il y a une autorité parentale qui dit à un adolescent ou à un enfant de 13 ou 14 ans, tu ne touches pas au téléphone, tu ne touches pas aux réseaux sociaux, tu ne vas pas surfer la nuit sur des films pornographiques.
Oui, mais vous regardez comment il est regardé, ce parent-là, aujourd'hui. Dans la société dans laquelle on vit, le parent qui dit « moi, mon gamin n'aura pas de téléphone avant ses 18 ans parce qu'il n'en a pas besoin et parce que j'ai pas envie qu'il ait accès à tout ça », passe pour un
pur réel. Il y a le contrôle parental qui existe, et puis on n'est pas obligé d'utiliser son téléphone la nuit.
Je suis d'accord, mais je suis évidemment d'accord avec vous, Lionel, mais la nuit. La vérité, c'est que la personne qui professe ce type d'éducation passe pour un vieux réac, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, je suis d'accord. Hein, mes filles n'auront pas de téléphone avant très longtemps. Mais
on en reparle, Geoffroy.
Ah non, mais c'est pas qu'elles veulent pas. Hein. Il y a pas de problème avec ça, t'inquiète pas. Mais par contre, je pense en effet que je suis désolé de le dire, mais en fait, il faut revenir à des choses qui existaient avant. On connaît ça. On ne doit pas inventer un nouveau modèle de société. En fait, on sait d'où on vient et on voit le désastre dans lequel on est. Donc moi, je dis juste. Tout ça
on est confronté à des défis nouveaux qui n'existaient pas pour des générations précédentes.
D'accord avec toi, mais disons que la génération des gamins de la guerre des boutons, s'ils avaient eu le téléphone à ce moment-là, leurs parents leur auraient dit non. Aujourd'hui, l'autorité parentale n'est plus la même, c'est tout. Donc il faut reconstruire ce genre de choses.
Et il y avait la peur de la sanction aussi à l'époque de la guerre des boutons, la peur du gendarme d'être puni si on commettait une faute. Évidemment.
Voilà, c'est ça le... La limite civilisationnelle, c'est la
vérité, c'est que
l'intention de donner la mort.
Les civilisations, les gamins se bagarrent, c'est des bagarres de gamins.
C'est bagarres de gamins.
Bien sûr.
Et ça, c'est pas de ça dont on parle là.
Quelques minutes pour terminer l'émission, il nous en reste 4. Il faut aider les enseignants, bien sûr, le monde éducatif, les élèves. Et pour cela, au-delà peut-être de leur donner des cours de Krav Maga ou de self-défense, le gouvernement et le président de la République préfèrent réformer à fleurer moucheté cet enseignement, puisque lors d'une visite d'une école parisienne cet après-midi, Emmanuel Macron a annoncé que les futurs enseignants seraient recrutés à l'issue d'une licence, ce qui veut dire que le concours pour être professeur va baisser, c'était Bac+5, ça passe à Bac+3. On écoute Emmanuel Macron.
Le concours sera passé à la fin de la licence. Alors il y aura une forme de passerelle, c'est une forme de prépa intégrée, cette licence qu'on va ainsi créer. Donc il y aura des épreuves allégées pour ceux qui s'engagent dès après le bac et qui auront déjà eu tout ce corpus. Ce qui va nous permettre, en tout cas on en est convaincu, de bien mieux former, de mieux préparer, de le faire dès après bac. C'est ça qui va monter en charge dès l'année prochaine. Et en fait sur 2-3 ans, là on va le systématiser pour que toutes les générations puissent arriver sur ce nouveau système.
Avant de vous demander ce que font les deux autres ministres de l'éducation, puisque il y a Nicole Belloubet, mais il y a aussi Gabriel Attal et Emmanuel Macron, cette formation, cette réforme, elle vous inspire quoi? C'est recruter en quantité plutôt qu'en qualité, Geoffroy Lejeune?
C'est surtout qu'ils ont un problème de recrutement énorme, en fait.
Ouais, voilà.
C'est la conséquence de tout ce qu'on est en train de dire depuis maintenant 20 minutes. Les professeurs, les gens n'ont plus envie d'être professeurs. Et je les comprends, en fait. Donc, du coup, c'est très intéressant, d'ailleurs. Les gens ont été recrutés au concours avec parfois des notes très, très inférieures à la moyenne. Hein. C'était déjà devenu beaucoup plus facile d'être professeur. Et ils sont obligés de d'ouvrir les vannes, entre guillemets, pour recruter un peu des profs. Maintenant, moi, c'est sur la partie sécurité que très ironique. Très ironique qu'on se prépare en effet à former les professeurs au Krav Maga et à leur demander de venir faire des cours avec un gilet pare-balles parce qu'un jour, c'est ce qu'on va demander. Mais on leur interdit de demander à une petite fille d'enlever son voile, ce qui est pourtant la loi, en fait.
On leur dit pas. Ils ont le droit de le faire.
Ouais, mais
ils ont même le devoir.
Ils ont le droit de le faire et au
c'est
moment.
C'est l'application de la loi.
Et moi, je suis désolé, je vais revenir sur cette histoire de la semaine dernière du professeur de Maurice Ravel. Proviseur, pardon. Il y a un scandale énorme et tout le monde est passé à autre chose et je ne comprends pas. C'est que le rectorat a dit qu'il était parti pour convenance personnelle alors qu'il est parti tétanisé parce qu'il avait peur de devenir.
Parce qu'il a reçu des menaces de mort.
Exactement.
Bien sûr.
Et on a laissé faire ça. Moi, j'ai interrogé mes interlocuteurs politiques de la semaine au gouvernement en disant « Vous êtes sûr ou pas ?» Enfin, vous n'auriez pas pu lui demander, mais ne serait-ce que symboliquement, pour que le symbole inverse soit envoyé en réalité, de faire les 2 mois qui lui restaient ou les 3 mois qui lui restaient avant de partir à la retraite, quitte à lui mettre une escorte policière, j'en sais rien, mais que ce ne soit pas eux qui aient gagné, en fait. Et non. Non, on préfère. Et on couvre le mensonge du rectorat qui dit convenance personnelle. C'est quand même lunaire, vous vous rendez compte.
Votre réaction, Philippe Guibert, pour terminer, sur le fait qu'il y ait trois ministres de l'éducation, puisque Nicole Belloubet est la ministre officielle. Gabriel Attal a toujours dit, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, que ça restait son ministère de cœur. Et c'était donc Emmanuel Macron, le président de la République, qui porte la réforme. Que font les deux autres?
Oh, ils font plein de choses.
C'est pas Trois ministres de l'éducation sont dans un bateau. Deux tombent à l'eau.
Emmanuel Macron avait déclaré il y a, je crois que c'est un an, que l'éducation faisait partie de son domaine réservé. Alors, vous savez, dans la tradition gaulo-matérandienne, le domaine réservé, c'était les affaires étrangères et la défense, la diplomatie, les relations internationales, l'Europe. Là, Emmanuel Macron a décidé d'y ajouter l'éducation. Et qu'il se préoccupe de l'éducation et qu'il considère que c'est une priorité de la nation, on sera tous pour. Et on est tous convaincus que c'est une priorité absolue. Là où c'est beaucoup plus bizarre comme système, c'est qu'Emmanuel Macron se réserve, y compris des annonces, alors qui ne sont pas simplement techniques, parce que ça, c'est pas que de la technique, mais enfin qui sont des annonces détaillées, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui vient vous expliquer les modalités de passage, d'admission au concours. Et là, je trouve qu'on est chez les fous et qu'Emmanuel Macron ne gagne rien, qu'il fasse de l'éducation la grande priorité de la nation et qu'il le rappelle régulièrement, on l'applaudirait. Qu'il vienne remplacer sa ministre et son premier ministre, qui a montré ses qualités de communicant accessoirement, pour exposer une mesure, là, je trouve qu'on est chez les fous et que Emmanuel Macron, à vouloir tout dire et tout faire, absorbe l'énergie de l'exécutif, et je ne suis pas sûr que ça lui rende service, au total, ni au pays d'ailleurs.
Et ce sera le mot de la fin, car sa dispute est déjà terminée. Merci Philippe Guibert, merci Geoffroy Lejeune.
Je sais. Pas qu'on refasse
on va demander du rab, on demandera à Serge Nedjar si on peut avoir un peu plus de temps à l'avenir. Mais en tout cas, on sera là vendredi pour vous accompagner. Merci. C'est Olivier de Kerenfleck avec CNews et l'information Soir Info dans quelques instants. Et à demain, 14h pour 180 minutes Info Week-end.